France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Geoffroy Jourdain, je suis né en novembre 72 à Épinal et je suis musicien.
On a parlé beaucoup des choses écrites en même temps, quand je disais, Geoffroy Jourdain, qu'il y a des vrais fils qui perdurent, soit avec des formes, soit avec des intérêts. Quand on a évoqué une personne très importante de votre construction, qui était Léoto, et qu'on pense à L'ailleurs de l'autre, qui est un spectacle que vous avez fait, tout un projet avec, je crois, le Quai Branly, etc. Je veux dire, le résultat, c'était de retrouver, sans passer par la notation, ces chants qui viennent des quatre coins du monde. Là aussi, il y a un vrai fil, d'une certaine façon.
Alors, c'est un projet qui s'est fait en plusieurs temps, mais effectivement, c'est parti de quelque chose de tout à fait inattendu, une invitation d'un festival qui s'appelait, en tout cas à Paris, parce que je crois qu'il n'existe plus à Paris, les siestes électroniques, et qui consistait à proposer à des DJ de prendre des fonds de la phonothèque du Quai Branly et de faire des sets. Mais on m'a proposé de le faire, bon, sachant que je ne suis pas DJ, mais j'ai immédiatement dit oui. On en a parlé, mais effectivement, notamment, parce que je me suis dit que ça se trouve, j'allais pouvoir avoir accès. Ça a été le cas d'ailleurs à beaucoup de disques épuisés. J'ai donc proposé d'imaginer, avec des chanteuses écrites de Paris, dont je savais qu'elles seraient susceptibles de malmener, entre guillemets, leur voix, parce qu'elles aimaient bien le faire dans le cadre de pratiques vocales de musique contemporaine, d'essayer de reproduire des enregistrements d'ethnomusicologues de musique vocale. Donc, j'ai commencé à leur envoyer des berceuses, et puis ensuite d'autres chants, mais des chants chantés par des femmes, que je trouvais là-bas, avec cette idée qui était un peu saugrenue, puisque, enfin, elle n'a pas fonctionné, qu'elle ne sache pas d'où ça venait. Car on n'allait pas chercher ce que disaient les paroles, on n'allait pas chercher autre chose que juste écouter et essayer de reproduire la vocalité. Et si c'était pas possible, parce qu'il y a des choses qui sont totalement impossibles, inventer quelque chose d'autre. C'était vraiment un protocole pour... aussi parce que c'était un festival de musique électronique, donc il y avait un peu l'idée d'essayer de reproduire quelque chose de façon un peu, que personne ne le prenne mal, mais un peu binaire, pour voir aussi comment nous, qui sommes toujours habitués à penser la musique par rapport à l'écriture, qu'est-ce qu'on va garder de ce rapport inversé, et puis évidemment titiller notre mémoire musicale. Voilà, voir comment ça allait se transformer. Il s'avère que le principe de l'acculturation auquel justement Gilles Léoto nous rendait tous ses étudiants très sensibles, l'acculturation L', est en grande partie passée par l'enregistrement. Mais évidemment par l'enregistrement d'une chanson pop diffusée dans des endroits où il n'y avait même pas encore de bouteilles de Coca-Cola, quoi. Et c'est ça qui a fait que les échelles se sont tempérées. Enfin, c'est pas que ça, mais en grande partie c'est ça, que des musiques ont disparu. Et donc ça m'intéressait de voir comment ça se passait si c'était dans l'autre sens, quoi. Voilà. Bon, et il s'avère que ça a pris une importance folle dans la vie de ces chanteuses et qu'on s'est dit que ça pouvait pas être un one-shot et qu'il fallait inventer quelque chose d'autre. Donc on a commencé à étudier beaucoup plus de répertoires. Chacun est allé commencer à faire des recherches sur le site du CREM notamment, enfin du CNRS. Et puis de ce fait, c'est devenu un des piliers de toutes les actions de médiation culturelle d'Écrit de Paris. On s'est mis nous-mêmes à faire des collectes. C'est devenu un spectacle. Maintenant, ça redevient un concert avec un répertoire qui se renouvelle, dans lequel, par exemple, il y a une chanson que j'ai enregistrée, chantée par des enfants dans des rues de Madagascar, enfin, d'Antananarivo. Donc, il y a, comme ça, c'est devenu aussi une espèce de projet, une progresse, qui nous permet d'entretenir un rapport, en tout cas pour certains des membres d'Écrit de Paris, à la transmission orale.
Et que ma voix est où, et ma voix est où.
Est-ce que vous êtes fondamentalement un voyageur, Geoffroy Jourdain ?
J'aimerais bien être un voyageur. J'aurais bien aimé être un explorateur, mais disons que je suis un touriste aventureux. J'ai eu l'occasion de rencontrer vraiment des voyageurs, justement en voyage, et je pense que je joue pas dans la même catégorie. Mais j'ai osé voyager trop tard, je trouve, parce que la vie est courte, mais c'est important, voilà. C'est extrêmement important, je pense, pour moi, mais pour les miens aussi.
Il y a des zones dans le monde qui vous attirent plus que d'autres ?
Je crois que je peux parler qu'au passé, parce que si demain on me dit tu peux aller où tu veux, je crois qu'effectivement, par exemple, j'aimerais bien aller en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais j'ai aimé beaucoup aller dans des endroits, notamment pour la montagne. Enfin, que ça a été mon point de départ, mais en réalité, j'aimerais, je sais pas, dans une autre vie, voyager seul en Afrique, mais sinon, je me sens et je sais que mes pas vont me reconduire en Asie et en particulier en Inde dès qu'on pourra. Idéalement d'ailleurs, et pas que pour des raisons éco-responsables, mais je crois que mon fantasme, c'est le voyage de Nicolas Bouvier. Enfin, peut-être pousser un peu plus loin jusqu'aux îles Salomon. Ouais, mais c'est-à-dire partir d'ici et aller en voiture, ou autrement d'ailleurs, pourquoi pas à pied ou à cheval, à l'Est. Voilà. J'ai fait un voyage seul il y a quelques années. Je suis parti 3 mois en Asie et j'ai passé un temps non négligeable dans le sud de l'Inde, où je suis retourné après en famille. Je sais que c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien, alors je vais pas vous sortir les clichés sur l'Inde, mais notamment, pour revenir à nos sujets, par rapport à la façon dont on peut être immergé dans une culture, et notamment une culture classique, enfin, dans le sens où on entend classique, qui n'a strictement rien, mais rien, rien, rien à voir avec la nôtre. Imaginez, ça va être un peu trivial ce que je dis, mais j'étais de passage à Chennai et je cherchais justement des disques de musique indienne. Et quand j'ai vu la place qui était réservée à notre super culture, ça m'a fait beaucoup de bien.
On parle de vos projets, il y a les projets évidemment à la scène, il y a aussi les projets discographiques et je pense que c'est important d'en parler, j'allais dire c'est toujours important d'en parler pour un musicien, mais là en l'occurrence, à chaque fois j'ai l'impression que les disques sont véritablement des projets artistiques. C'est pas juste enregistrer une œuvre, c'est bâtir véritablement une histoire et la mettre en forme pour que ce soit un voyage par le disque. Je pense à Passion, Mélancolia. Est-ce que c'est comme ça que vous les vivez, vous ?
En préambule, je dirais que j'ai un regret, c'est justement de ne pas avoir pris conscience suffisamment tôt que c'était possible de faire ça. Donc en fait, je regrette d'avoir fait peu de disques, parce que j'adore faire des disques. Voilà. Mais pendant longtemps, d'ailleurs Olivier Michel me disait qu'il fallait faire des disques, et je disais non, non, non. Ce sont des cartes de visite, c'est une photographie à un instant donné, et en fait, il faut être parfait, enfin voilà. A fortiori, depuis qu'on est chez Harmonia Mundi, mais ce serait pas rendre hommage au label précédent, et quand même, ils ont joué le jeu aussi. C'est vrai que j'ai pris goût à... En ce sens, j'étais effectivement vraiment soutenu là par Christian Girardin chez Harmonia Mundi, à penser à faire des albums. Et finalement, depuis que je pense comme ça, je sais que je renoue avec quelque chose d'assez fantasmé du passé. C'est-à-dire, il s'agit pas d'enregistrer des numéros d'opus, quoi, mais... Et même parfois, ça a été le cas de Mélancolia. L'idée de Mélancolia, c'était quand même de partir avec un tas de partitions à Sylvanès, avec une équipe de chanteurs qui certes se connaissaient, mais on lisait les partitions la journée, on enregistrait la nuit. J'exagère à peine. De ça, on allait garder. Il y a des pièces qui ont été enregistrées qui sont pas sur le disque. Il y a des pièces qu'on a lues, qu'on n'a pas enregistrées, puis des pièces qui ont été enregistrées qui n'ont pas été sur le disque. Là, il y avait quelque chose un peu comme des sessions d'enregistrement dans la musique pop. Bref, mais enfin, ça, c'était un concept. Ça change avec les albums. C'est pas du tout le cas de Passion. Mais effectivement, l'idée de raconter un peu une histoire. Et surtout que ça puisse satisfaire quelque chose qui peut à la fois tenir le rôle du disque, c'est-à-dire d'être un outil, certes, de promotion et qui se met à un moment donné dans les radars de quelque chose qui ensuite va permettre une diffusion. Mais en même temps, être à l'endroit de quelque chose qui est en germe, qui est suspendu, comme je disais tout à l'heure, depuis longtemps. Et là, précisément, Passion, par exemple, il y a dans Passion des pièces qui datent de vraiment de mes tout premiers émois musicaux. Le Loti à 8 voix, je pense que c'est une des premières pièces chorales qui m'a vraiment bouleversé. Donc, si le disque, ça peut être ça, alors je trouve que c'est vraiment intéressant. On a presque l'impression d'être comme quelqu'un qui écrit un livre. Bon, certes, avec les mots des autres, mais enfin bon, un livre, c'est ça aussi.
France Musique, les grands entretiens de Geoffroy Jourdain.
Si on parle du geste, un instant, Geoffroy Jourdain, est-ce qu'aujourd'hui vous dites que votre geste de musicien, il a changé ?
On parle de geste vraiment physique,
ouais,
de chef ?
Ouais.
Oui. Il se regarde beaucoup moins. Je pense que d'ailleurs, quand je vois des images, je me dis, oh là là, s'il fallait enseigner la direction, je pourrais pas montrer ça à mes élèves. Alors que, avec l'école ericksonienne et tout ça, il y avait une espèce d'esthétique du geste. Et puis, de toute façon, quand on fait des études de direction, on croit que c'est ça qui est important. Vraiment, hein. Je comprends en même temps. Donc, mon geste aujourd'hui, il a plus rien à voir. Je pense que je fais avec, disons. Enfin, on fait avec son corps. Mais ce qui est certain, c'est que pour le coup, il est davantage proprioceptif. C'est-à-dire que je sais ce que je fais, mais par contre, j'essaye de pas faire grand-chose, même si je fais pas partie des plus sobres. En revanche, non, je crois que le geste, là, c'est vraiment important. Si c'est un prolongement de l'écoute, et il le devient, je crois. C'était K.O. qui disait ça beaucoup, mais il n'y avait pas de raison non plus de trop dire le contraire, mais il faut surtout pas qu'il dérange. Bon, déjà c'est beaucoup en fait, juste de faire démarrer ensemble des gens. Vous voyez bien aussi bien avec un orchestre qu'avec un chœur quand en fait les gens vous voient pas ou qu'ils se regardent entre eux, c'est quand même plutôt mauvais signe. Je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait aujourd'hui, je sais pas comment l'expliquer sans que ça paraisse un peu perché, mais il guide mon écoute aussi. Enfin, c'est-à-dire c'est un prolongement de l'écoute. Et j'ai un très beau souvenir d'Erickson, vraiment. Je pense. Enfin, il est mort très âgé, mais à la fin de ses années d'enseignement, il était donc déjà très vieux. Je le vois encore, il était au piano, il aidait des étudiants ou un chœur ou les deux, je sais pas, je me souviens, c'était le Comme Jésus Comme de Bach. Faut imaginer que pour monter sur le podium, la scène où il y avait le chœur, il fallait des gens pour l'aider. Et en fait, il se met à diriger du piano, donc avec ce geste très aérien dont je pense que certains de vos auditeurs se souviennent. Et puis tout à coup, il s'est levé, il est allé gambader au milieu de la scène. Et je pense que si la musique s'était arrêtée, il tombait, quoi.
Thank you.
traqueur ?
Non. Enfin, oui, mais ça ne me fait pas perdre mes moyens. J'ai été excessivement traqueur pendant, mes premières auditions de clavecin, de chant. Je me souviens une fois d'avoir ouvert la bouche et que le son n'était pas sorti du tout. J'ai souvenir même d'avoir pris des bêta-bloquants. Enfin, voilà, c'était terrible. Et en fait, c'était un concert de Vivete Felici à Saint-Médard, où on faisait du Rossi d'ailleurs. Donc ça, c'était vraiment il y a très longtemps. Et la veille, j'avais dormi chez un très bon ami, ou plutôt je couchais chez lui, mais je n'ai pas dormi de la nuit, parce que je me suis dit, en fait, cette fois-ci, c'est plus possible, j'arrête tout si j'ai autant le trac à chaque fois. Et puis, en fait, j'ai pas eu le trac du tout. Voilà. Et donc, j'ai gardé pendant très longtemps, pardon, mais c'est une histoire qui est peut-être pas très intéressante. J'ai, pendant des années, mis la paire de chaussettes que j'avais ce jour-là au concert. C'est devenu ma paire de chaussettes de concert. Et elle a disparu. Et une fois cette paire de chaussettes disparue, je n'avais plus le trac.
Si on pense à l'avenir, alors, Geoffroy Jourdain, est-ce qu'il y a des grandes œuvres qui vous attendent, des projets, des envies, des voyages ?
Ah, alors des grandes œuvres qui m'attendent, j'espère encore plein. Si je devais répondre à cette question de façon, pas ce qui est prévu, il y a quelques rêves. C'est des choses qui me semblent très très loin dans la mesure où je me dis je pourrais jamais le faire, j'oserais jamais y aller ou j'arriverais jamais à réaliser, mais qui en même temps viennent me bousculer parfois de façon un tout petit peu presque physique, donc une espèce d'appel comme ça où je me dis que peut-être qu'un jour je pourrais. Auquel cas je citerai quelque chose d'un peu pharaonesque mais dont je vais avoir besoin je pense, c'est peut-être l'actualité qui veut ça, mais c'est Corot de Berlioz. Voilà, cette œuvre pour 40 chanteurs et 43 instrumentistes, donc je lance un appel. Non, ça c'est vraiment important. J'ai vraiment, besoin de faire cette œuvre, enfin en tout cas de la traverser. Mais en fait, non, je crois qu'il y a quelque chose que je recule sans arrêt, peut-être que je reculerai pour toujours, c'est de faire du bac. Mais quand même, là, je me souviens, j'avais dit que j'attendais 40 ans. Et puis en fait, ils sont bien passés. J'ai dû faire deux motets de bac avec l'écrit il y a fort longtemps, mais voilà, il y a des moments où j'ai cru que c'était le moment. Et puis, je pense que l'arrivée de Pygmalion dans le chant de la musique de Bach a fait que je me suis dit qu'il fallait que j'attende encore à peu près 80 ans pour me sentir assez mûr. Mais quand même, malgré tout, on fait pas de la musique pour des questions de catalogue ou par rapport à un palmarès. Et je crois que ça devient un peu inévitable. Il y a des espèces d'émotions qui s'emparent de moi dès que j'écoute du Bach, où il y a quand même un truc, je sens que... Pas d'ailleurs nécessairement ce qui est de plus mainstream, mais enfin, c'est plutôt dans le domaine des cantates qu'il y a des pièces. Et je sais pourquoi, hein. En fait, dans mes goûts musicaux, je fonctionne quand même beaucoup avec des madeleines, en fait. Et il y a beaucoup de choses que je fais aujourd'hui qui, en réalité, me suivent depuis 25 ans. D'ailleurs, je vais faire bientôt Actéon de Charpentier. Ça doit être mon premier disque, ou presque. Et vous me parliez de voyage. J'espère que les conditions sanitaires vont me permettre, ainsi que quelques personnes d'Écrits de Paris, de retourner pour la troisième fois, et à quasiment un an d'intervalle, à Antananarivo, où on a un projet de formation au sens large, de chef et de chanteur, qui se fait sous l'impulsion au départ de l'Institut français, et puis rejoint ensuite par une fondation qui s'appelle Philatex. Et ça me tient particulièrement à cœur d'y retourner.
Est-ce que, Geoffroy Jourdain, pour se quitter, alors je vous demande ça comme ça, sans préparation, vous auriez quelque chose, je sais pas, vous avez plein de poésie, plein de livres tout autour de nous, juste quelques lignes qui font sens pour vous.
Wow.
L'inspiration du moment.
J'ai quelques secondes pour réfléchir éventuellement à autre chose. Non, ça, j'ai l'impression que c'est un peu... Tenez, je sais. Je peux vous lire un...
Eh ben oui.
On restera dans la musique et moi dans la littérature.
Très bien.
Ouais. Je vais vous lire un extrait d'un entretien de Berger.
Super.
C'est Berger qui répond à une question toute simple, mais qui prend des pages. Sa définition de la musique... c'est un peu long.
Allez-y.
Je vais voir, je fais des coupes dedans peut-être. Ouais, je coupe franchement alors. Peut-être la musique est-elle proprement ceci, la recherche d'une frontière perpétuellement reculée. Dans les siècles passés, par exemple, la frontière tonale délimitait des territoires précis et profonds. De nos jours, les territoires sont extrêmement vastes et les frontières, comme jamais encore, mobiles et de nature diverse. Plus encore, l'objet de la recherche musicale et de la création souvent ne consiste pas à définir une limite perceptive, expressive ou conceptuelle, mais bien plutôt son déplacement lui-même. Elle est justement ce mouvement, entre guillemets, avant-gardiste, de reculer les frontières. Et dans ce cas, paradoxalement, il devient facile de répondre à cette question. La musique est tout ce que l'on écoute avec l'intention d'écouter de la musique.
Et c'est avec Purcell, par l'écrit de Paris, que nous refermons cette série de grands entretiens avec Geoffroy Jourdain. Réalisation Christine Amado, prise de son Loïc Duros, mixage Cédric Chatelus, attaché de production Flora Sternadel. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau portrait d'artiste. À réécouter sur francemusique.fr.